vigilance constante. Là. C'est pour ça qu'on s'implique là-dedans, parce que c'est quelque chose qui est comme qui peut devenir une bombe, qui est une bombe à retardement. Il faut que personne puisse arriver quelque chose. C'est pour ça qu'on s'implique encore là-dedans.
Bonne chance avec tout ça. On aura probablement l'occasion de s'en reparler. Bonne soirée.
Ben merci à vous aussi.
Charles Deschênes, trottier, père de deux enfants qui fréquentent l'école primaire. Victor Rousselot, c'est à 80 mètres de l'ouverture d'un nouveau centre qui vient d'ouvrir, d'inhalation et d'injection de drogue sous supervision. Et allez parler aux gens au centre-ville de Montréal qui habitent à côté d'un tel centre géré par Cactus. Il y a des gens en état de dépendance qui viennent là et qui causent toutes sortes d'incivilités. Quand je dis des incivilités, le mot est un peu chic, mais disons que les gens qui habitent un immeuble, là, je pense que c'est un immeuble de coop pas très loin, ils les trouvent dans les couloirs, ces gens-là, dans des états très, très seconds. Ben, on peut comprendre les préoccupations des parents dans le sud-ouest. Et vous dire en terminant, l'école est à 80 mètres du centre d'inhalation et d'injection. La loi pour les succursales de la SQDC pour le cannabis, ça peut pas être à moins de 250 mètres.
CFIX 93, son équipe et le studio McDonald's, un trio de champions. CFIX FM 93.
Salut Philippe.
Salut Patrick.
Je pensais pas vivre une autre époque où un chef du Parti québécois promettrait un référendum dans un premier mandat.
Oui, il était très, très convaincu, M. Saint-Pierre Plamondon, durant le week-end. Je rappelle néanmoins que nous sommes en 2024, au mois d'avril 2024. Les prochaines élections au Québec, c'est en 2026. Mmh. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de temps avant les prochaines élections. Et c'est clair qu'à l'heure actuelle, si M. Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois occupent largement la position de tête en politique, c'est très long, 2 ans et demi, Patrick. On le sait tous, l'histoire l'a souvent démontré et j'ai l'impression qu'en disant ben c'est sûr qu'on s'en va vers un référendum, ben c'est évident qu'il estime que c'est sûr que le Parti québécois va être élu en 2026. Et ça, ben non, la vérité objective, c'est que ce n'est pas sûr.
Lui, il dit assurément il y aura un référendum avant la fin de la décennie. Il prend un peu pour acquis qu'il va être élu en 2026.
Exactement, exactement.
Parce que si c'est pas lui qui est élu, M. Plamondon, il y en aura pas.
Il y aura pas. Peut-être avec Québec solidaire, si Québec solidaire était élu, j'en doute,
mais
il y aurait peut-être une assemblée constituante, mais il n'y aurait pas de référendum. Alors bon, qu'est-ce qui peut arriver sur l'échiquier politique? Un retour de la coalition Avenir Québec dans les intentions de vote, un retour en force, j'en doute. Je pense que ça va être très, très difficile pour la coalition Avenir Québec. Donc, c'est sûr que le Parti québécois est en tête. Par contre, attention, puis Régis Labeaume a signé une chronique assez intéressante dans la presse là-dessus il y a quelques temps. Le Parti libéral du Québec n'a peut-être pas dit son dernier mot, parce que là, chez les libéraux, j'ai l'impression que ce qui vient de se produire en fin de semaine au Conseil national du Parti québécois, ça risque d'être un électrochoc. C'est-à-dire que toute cette question-là de la souveraineté, qu'on le veuille ou pas, Patrick, là, c'est presque déjà clair que ça sera un enjeu majeur aux prochaines élections. C'est clair que M. Saint-Pierre Plamondon va faire sa campagne électorale là-dessus. Donc, les autres partis devront se positionner. Ça va être difficile pour la CAQ pour toutes sortes de raisons évidentes. Là, la troisième voie, dans le moment, semble pas tellement fonctionner. Alors, il y a peut-être un coup à jouer pour les libéraux, en autant qu'ils aient un chef qui soit capable de rassembler un certain nombre de Québécois et de rassembler les forces vives de ce parti-là. Ce chef-là, à mon avis, ça ne peut pas être Denis Coderre. Denis Coderre a beau vouloir être chef du Parti libéral du Québec, je pense pas qu'il a les capacités de rassembler, je pense pas qu'il ait les capacités d'inspirer. Je pense que ses deux derniers échecs sur la scène municipale ont montré de façon très, très claire ses immenses limites comme campaigner. Il a fait de très, très mauvaises campagnes. Dans les deux occasions, il partait gagnant dans les sondages avec une vaste majorité des voix. Dans les deux cas, il l'a échappé. Puis plus ça allait dans la campagne, plus il l'échappait.
Mais Philippe, il y a un paradoxe quand même, OK? Parce que Jean-Marc Léger était au micro tantôt,
ouais,
et il l'a dit. 9 % d'intention de vote pour le Parti québécois il y a un an, et là, bang! Paul Saint-Pierre Plamondon, par son discours, sa personnalité, son approche, fait bondir ça à 34 %. Donc, il est en pleine montée. Mais l'appui à la souveraineté bouge pas. Ça reste à 36 %.
Non, ça bouge pas. Puis bon, c'est un phénomène quand même relativement récent où M. Saint-Pierre Plamondon en parle autant. Je te dirais que depuis le début de l'année 2024, ça revient dans tous ses discours. Et tu remarqueras qu'Yves François Blanchette avec le Bloc québécois, c'est la même chose. Dans toutes les entrevues, il y a toujours à la fin une phrase pour dire « on n'a pas notre place dans ce pays-là, c'est terminé, encore à ton micro la semaine dernière ». On sent, là, c'est vraiment un mot d'ordre du côté souverainiste. Dans toutes les entrevues, il faut que ça se termine de cette façon. situation-là. Si c'est pas un mot d'ordre, ben à tout le moins, ils pensent tous de la même façon puis ils vont avec la même stratégie.
Mais tu vois, M. Léger, toujours, là on est à 36% pour la souveraineté. Mais ce qu'il disait, je pense que, si je me souviens bien, un peu avant le référendum de 95, c'était à 40%.
C'était à 40%, tout à fait.
Et à la faveur de la campagne, de l'engouement, etc., bang, on sait ce qui est arrivé.
Oui, on sait ce qui est arrivé. Patrick, il y a eu, par exemple, un phénomène très important qu'il faut pas oublier, et ça a été l'engouement très, très personnel que Lucien Bouchard a
presque
suscité.
Charnel,
oui, tout à fait, auprès de la population. On sait, c'est après qu'il a frôlé la mort là, avec toute cette terrible histoire de bactéries mangeuses de chair. Moi, je me souviens, là, quand c'est arrivé, quand il a été admis dans un hôpital, c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais été dépêché par la presse à aller couvrir ça. On pensait vraiment que M. Bouchard en était à son dernier souffle. Et quand il est revenu, c'était vraiment...
Il marchait sur l'eau.
Transcendé. Oui, écoute, oui. Je vais te raconter une histoire. Okay? Je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai couvert cette campagne référendaire de 1995. Puis juste pour la petite histoire, là, au début, il y avait l'autobus du oui, l'autobus du non. Puis dans l'autobus du oui, c'est Jacques Parizeau qui était évidemment le porte-parole, le chef du camp du oui. Quand ils ont vu, après c'était 4 semaines de campagne référendaire, quand les organisateurs du oui ont vu que ça levait pas, puis que ça, les intentions de vote restaient là, à peu de choses près, 40, 41, 42%, c'est là qu'ils ont décidé de changer pour les besoins de la discussion publique, le chef. Parizeau est resté le chef, mais c'est Bouchard qui est allé sur toutes les tribunes. Ainsi, moi, j'ai couvert les 2 dernières semaines dans l'autobus du oui, et c'était Lucien Bouchard qu'on suivait. Jacques Parizeau, il avait été comme un petit peu tassé sur le plan public. Il demeurait le décideur derrière, mais c'était Lucien Bouchard. J'ai vu avec Lucien Bouchard des choses que je n'ai jamais vues auparavant en politique, et je pense que je ne reverrai jamais. Je me souviens d'un meeting, là. Alors, c'était dans un aréna, c'était à Vaudreuil, qui était d'ailleurs le comté du chef du camp du non, Daniel Johnson. Et c'est un, de mémoire, c'est un samedi ou un dimanche après-midi. Patrick, c'est plein, c'est bondé. Là. Il doit avoir, je sais pas combien qu'on tient, de monde, le petit amphithéâtre de Vaudreuil, mais c'était plein. Et là, M. Bouchard fait son entrée dans la salle et on lui fait faire là une assez longue marche pour se rendre à la tribune. Il traverse un peu la foule et puis il marche assez péniblement. Il a sa canne puis c'est pas par pas. Et là, j'ai vu, Patrick, de mes yeux vus, là, des gars, là, des durs, là, des, tu sais, des gars avec la chemise d'ouvrier, les bottes de travail, là. Ils étaient là, puis ils pleuraient. Ils passaient à côté, puis ils pleuraient. Et j'en ai vu qui ont pris des petits papiers. Il y avait des petits papiers pliés en 4, puis ils s'approchaient de M. Bouchard. Puis là, ils glissaient le petit papier dans la poche de son veston. Il y avait des messages pour lui à lui donner. Il y avait quelque chose de fusionnel. C'était absolument incroyable de voir ça. Un autre rassemblement, je pense que c'était sur la Côte-Nord. C'était un soir, c'était des journées immenses. Alors imagine, Lucien Bouchard, là, il est fatigué, là. Il revient de sa maladie. C'est des journées qui commencent à 7h le matin avec un déjeuner, puis bon, ça s'enchaîne. La chambre de commerce à midi dans une autre ville, puis le gros rassemblement le soir, il est un peu épuisé. Et puis là, un soir, il fait son discours. Et comme speaker, Lucien Bouchard, là, il était...
un orateur
extraordinaire et drôle. À ce moment-là, il était l'humoriste numéro 1 du Québec. Et je le dis parce que lui-même, il assumait, il mimait des conversations entre Daniel Johnson, qui était le chef du camp du non, et Jean Chrétien, qui était le premier ministre fédéral. Et c'était épouvantable quand il faisait ça. Mais le monde était plié en 4 à terre. C'était tellement drôle. Et rajoute à ça la chanson thème du camp du oui, qui était très, très enthousiasmante. Mais juste pour compléter cette anecdote-là, alors, c'est un soir, il est fatigué. Puis là, il parle, puis là, tout à coup, il perd complètement le fil. Et il arrête de parler. Et là, il y a un silence. Et ça dure, ma foi, un solide 30 secondes. Personne a dit un mot dans la foule. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu une réaction. Les gens attendaient. Monsieur Bouchard, il avait le droit, manifestement, de prendre sa pause. Mais c'était comme sensationnel dans le plus pur sens du terme d'être témoin de ça. Et là, tout à coup, il a retrouvé le fil de ses idées, il est reparti, puis tout ça. Mais de voir les gens qui respectaient ce silence-là aussi, c'était comme invraisemblable.
Ce que tu me dis, c'est que les arguments rationnels, c'est une chose, mais parfois, il y a de l'imprévu.
Ben voilà. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que, tu sais, on peut mentionner toutes sortes de raisons pour faire la souveraineté du Québec. Puis tantôt, à ton micro, là, je pense qu'on aura malheureusement pas le temps de l'écouter parce que le temps file, mais Pascal Bérubé, tu as demandé, tu as dit comme quoi, tu l'as vraiment interpellé sur les raisons. Il a mentionné l'environnement et les relations avec les Premières Nations. Je pense pas que c'est là-dessus que les Québécois vont aller voter avec cœur pour la souveraineté. La souveraineté, là, c'est une question de cœur, à mon avis. Ou bien tu le sens, ou bien tu le sens pas. L'environnement, tu sais, on pourrait, oui, je comprends, là, nous sommes tous très, très préoccupés par l'environnement. Mais si les Québécois votent pour l'environnement, regarde ce qui s'est passé dans le comté de l'Abitibi, là, où est la Fonderie Hearn aux dernières élections. Le seul parti qui s'opposait clairement à la Fonderie Hearn, puis qui mettait le gouvernement...
Avec un retentissement provincial.
Voilà, exactement, a été battu à plate couture par 4000 voix, la députée Émilie Lessard-Terrien de Québec solidaire par la coalition Avenir Québec. Alors, regarde Nordvol à l'heure actuelle. Oui, on en parle beaucoup de Nordvol puis qu'il n'y a pas de BAP, mais on sent que les gens, là, les gens sont un peu tannés d'en entendre parler. Moi, je sais que je l'ai senti parce que quand j'en ai fait trop de chroniques, j'ai jamais entendu autant de remarques. Hey, pourriez-vous parler d'autre chose? Puis Nordvol, d'un autre côté, ça, c'est le côté 1, Nordvol, pas de BAP, mais le côté 2, Nordvol, c'est quand même un projet environnemental. On va bâtir des batteries pour décarboner notre économie, t'sais. Alors, est-ce qu'on est si pire que ça au Québec? Je ne sais pas.
Merci, Philippe. On se retrouve demain. Hein? Salut. C'est la chanson du camp du oui en 95. On l'écoute un peu. Et que dire des pancartes, mais ce sera pour une autre chronique.
Rimouski à CFXFM 93. La référence en information. Au conseil de ville, ça a été d'une tranquillité là, puis d'un ordre absolu hier. Il y avait une douzaine de citoyens dans la salle et ça s'est déroulé là de façon là, très ordonnée pour une fois. Les gens là, qui font du grabuge ou qui sont impolis, grossiers devant le micro et envers les citoyens et les membres des employés du conseil pourraient être poursuivis en justice. Il n'y a plus personne qui en veut, les Jeux olympiques.
Sais-tu, je pense que moi le premier, il reste que c'est une affaire de gros sous.
Ouais, ouais.
Et la Grèce, dans les mois qui ont suivi les Jeux olympiques, c'est là que les problèmes financiers ont commencé à arriver.
Les partisans de l'Océanique voulaient jouer contre les Eagles, mais faut pas les prendre à la légère. En deuxième moitié de saison, là, donc après les fêtes, ils ont le quatrième meilleur dossier de toute la LHJMQ. On pensait que le Canadien était faible. Le Kraken, c'est quelque chose de rare.
Réveil Rimouski à CFXFM 93.
Le restaurant Union Pacifique a du nouveau pour vous. Besoin de solutions pratiques pour vos repas? Optez pour nos boîtes à lunch fraîches et équilibrées, parfaits pour les réunions de travail ou les gens pressés. Avec une variété de choix allant des salades fraîches aux sandwichs gourmets, nous avons tout ce qu'il faut pour satisfaire toutes les papilles et nous offrons la livraison. Nous offrons aussi le service de traiteur personnalisé. Laissez-nous faire de votre événement un festin inoubliable avec le restaurant Union Pacifique où la passion culinaire rencontre l'art de l'hospitalité. Réservez dès maintenant Union Pacifique.
Le centre de sport JMD Passion Hockey fête ses 10 ans à l'été 2024. C'est avec un tout nouveau complexe qui comprend deux surfaces, terrasses et services qu'on vous invite à vous inscrire pour la saison d'été dès maintenant. 5 classes masculines, 3 classes mixtes et 2 classes féminines. Cette saison comprend 16 matchs plus séries. Pour la classe Open, Deck Espoir de 5 à 12 ans et la Ligue M16, les inscriptions débutent le 25 mars. Rejoins-nous pour une expérience palpitante. CSJMDDeckRimouski.com.
Adepte de performance, mais soucieux de l'environnement,
le Kia EV6 GT 2023-9 est électrisant. Profitez de 7 000 $ de rabais du concessionnaire sur le PDSF plus 5 000 $ de subvention fédérale. Tous les détails chez Formule Kia de Rimouski. Un seul EV6 GT 2003 en inventaire. Faites vite!
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
La chronique financière de Pierre-Yves McSween, du lundi au vendredi à 9h35 et 17h30. Une présentation de H. Grégoire Rimouski. H. Grégoire Rimouski, un véhicule pour tous vos besoins.
À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
La chronique financière de Pierre-Yves McSween est une présentation de H. Grégoire Rimouski, votre spécialiste en financement automobile.
Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Compression à venir chez Tesla.
Oui, comme je te parle de temps en temps du phénomène le bon, la brute et le truand, je te fais un parallèle avec Clint Eastwood. Pourquoi? C'est parce que dans notre société nord-américaine ou occidentale, on a une vision bien divisée du monde du travail. Il y a le bon qui est le travailleur. la brute qui est l'entrepreneur ou l'investisseur, hein, et le truand qui est le retraité, hein, qui vit de ses rentes de revenus passifs. Et ces trois forces-là, le bon, la brute et le truand, influencent Tesla. Tesla qui a été longtemps une entreprise en développement, qui allait vite, investissait massivement pour dépasser les concurrents, là arrive à une certaine maturité, disons-le, c'est-à-dire qu'on a produit des modèles dont on ne revoit pas nécessairement le design. Il y a des concurrents qui arrivent sur le marché et là, on doit être en concurrence au niveau du PNL des